France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1958, la France arrive à la Coupe du Monde en Suède sans la moindre pression. Décriée, raillée même par la presse, on dit qu'elle est la première arrivée et qu'elle sera la première à repartir. La Fédération française de football ne semble pas avoir un avis très différent. Les joueurs ne reçoivent que 3 maillots, correspondant au match de poule contre le Paraguay, l'Écosse et la Yougoslavie. Mais contre toute attente, la France montre un visage radieux, porté par son ossature rémoise et notamment un Juste Fontaine dans une forme invraisemblable. La France termine 3e du tournoi et finit sur une résonnante victoire 6-3 contre l'Allemagne de l'Ouest, couronnée d'un quadruplé de Juste Fontaine. Cette épopée qui changera à jamais le visage du football français, c'est Juste Fontaine lui-même qui la raconte dans ce 3e temps de son À voix nue au micro de David Arthur, réalisé par Franck Lilin et diffusé pour la première fois le 27 mai 2009. C'est un condensé d'anecdotes, de récits et de détails en tout genre auxquels se livre celui qu'on surnomme Justo, qui rappelle ce fait presque incroyable aujourd'hui. Sans une, voire deux blessures successives d'attaquants français, il n'aurait probablement pas participé à cette Coupe du Monde et marqué ainsi de son sceau l'histoire de la compétition. Juste Fontaine racontant la légendaire aventure de l'équipe de France à la Coupe du Monde 1958, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
À voix nue cette semaine, Juste Fontaine s'entretient avec David Arthur. Aujourd'hui, troisième volet, Juste 13 et la triplette centrale. Bonjour Juste Fontaine.
Bonjour.
Alors, on est en 1958.
Et... Belle année.
Bonne année. Et alors encore une fois, le destin frappe à votre porte et il porte deux noms de famille qui vous sont chers, Nicolas et Batteux.
Oui.
Alors comment vous avez obtenu votre ticket pour la Coupe du Monde en Suède ?
Donc il faut que je revienne un peu en arrière parce que c'est important. En octobre ou novembre 57, il y a les matchs de France-Belgique qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 58, dont on va parler. Et ce jour-là, je suis remplaçant, et l'avant-centre de l'équipe de France, c'est Tadej Sizovski. La France gagne 6-3, et Tadej Sizovski marque 5 buts. Donc moi, je suis remplaçant, j'ai dit, à part la peste ou le choléra, je vois pas ce qui va empêcher Sizovski de jouer la Coupe du Monde. Et au printemps 58, se joue le match retour. Sizovski est blessé. Moi aussi, puisque j'ai été opéré du ménis et que je suis pas encore opérationnel. La France fait 0-0. Et le soir même, il y a 3 ou 4 joueurs d'origine algérienne qui partent, qui vont rejoindre l'équipe du FLN. Il y a Brahimi, Mekloufi, Zitouni, et Bentifour, je pense. Bon, il y en a 3 qui ont joué le match. Et donc, on va revenir de suite en 58. Parce que là, quand j'arrive, moi, à l'aéroport pour partir en Suède, c'est le lendemain du doublé Coupe-Championnat.
Avec Reims ?
Oui. Donc, on est dans les caves Tétinger. Et à 5 heures du matin, il y a un car qui nous prend directement des caves à l'aéroport d'Orly.
Vous buviez un peu à l'époque ?
Non.
Non, parce que vous buvez que l'eau, vous ?
Oui. Tout le monde dit, Fontaine, je ne boirai pas ton eau, alors je me sacrifie. Non, en fait, j'ai jamais aimé le reste. Je bois que de l'eau. Et je, des fois, un petit perroquet avec plus de menthe que de pastis.
Parce qu'on a dû vous en offrir des, ouais, des caisses de champagne quand vous étiez à Reims.
Non, tout le monde disait, il est sobre et tout, en fait, c'est parce que j'aime pas. Et donc, j'arrive... à Orly, donc c'est un mois avant la Coupe du Monde, et là, Nicolas, qui me connaît bien, il me dit, c'est toi qui vas jouer avant centre. Et pourquoi je dis ça? C'est que pendant la Coupe du Monde, il y a Bliard qui joue avec moi à Reims, qui a fait toute la saison. Par exemple, en coupe, il a marqué 2 buts en finale, moi le 3e, et j'ai fait marquer les 2 autres. Enfin bref, on s'entend très bien, etc. Il a eu une double entorse, là, pendant la préparation. Donc on le renvoie en France, il est remplacé par Bello. Et après la Coupe du Monde, quand on rentre à Orly, il y a quelques personnes qui nous attendent, hein. C'est pas le raz-de-marée, hein, comme on pourrait le croire, parce qu'à l'époque...
Oui, c'est pas le 14 juillet sur les Champs-Élysées.
Oui, non. Et donc, dans ceux qui nous attendent, il y a Bliard avec son plâtre et ses béquilles. Et moi, je suis ami avec lui, je suis voisin, parce qu'on habite l'un au-dessus de l'autre. Il est superstitieux, il cire mes chaussures. Parce qu'il me l'a ciré une fois, on a gagné, donc il a pris l'habitude de cirer mes chaussures. Ce en quoi, moi qui suis feignant, bon, ça m'arrangeait plutôt. Et quand je vois ce type-là, pour le booster déjà pour la saison d'après, qu'on allait refaire ensemble, etc., je dis à la Cantona, il y a des journalistes, je dis, s'il n'avait pas été blessé, peut-être que je n'aurais pas joué la Coupe du Monde. Et je vous dis ça parce que 20 ans après, tout le monde me dit, si Bliard n'avait pas été blessé, vous n'auriez pas joué. Alors, en fait, j'ai voulu rendre service et finalement, ça a eu un effet boomerang. En fait, la vérité, c'est que si Sizovski, lui, n'est pas blessé, alors là, sûrement que je ne joue pas la Coupe du Monde parce qu'il avait marqué 5 buts au dernier match. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait... Par chance pour moi, et malheureusement pour lui, il a été blessé, donc...
Donc finalement, votre record part d'un concours de circonstances.
Comme tout le reste. Je suis renvoyé du lycée, ça me permet... Enfin bref, il y a toujours eu un tremplin, et pas souvent de ceux qu'on doit recommander aux enfants.
Hein. Vous avez une providence un peu tordue, dirons-nous.
Voilà. Oui, j'ai la baraka, comme dirait Aznavour, qui a chanté ça. Et donc, bon, ça se passe, on arrive là-bas, on commence à se préparer tranquillement, parce que les résultats de l'équipe de France n'ont pas été bons. À part le match nul contre la Belgique, on a pris 5-0 en Angleterre, j'y étais pas. On a fait 0-0 contre la Suisse, j'y étais, mais il n'y avait pas Copa parce qu'il était à Madrid qui jouait la Coupe. Enfin, il n'y a jamais eu des équipes complètes, quoi.
Oui, vous arrivez avec un mauvais crédit.
Non, la France, oui.
Oui, non, l'équipe de France. Non, mais l'équipe de France. Un peu comme l'équipe de France en 2006. Vous n'arrivez pas...
Non.
Pire que ça, oui.
Parce que nous, quand on s'en va, un mois avant, on nous donne 3 maillots. Les 3 maillots des matchs qu'on est obligé de jouer, quoi, les éliminatoires. Parce qu'il y avait des poules. Donc il y a le Paraguay, la Yougoslavie et l'Écosse. Donc on a les 3 maillots avec la broderie France-Paraguay, France-Yougoslavie et France-Écosse. Ils nous donnent 3 maillots parce qu'ils sont sûrs qu'on va revenir, quoi. Et ils se disent même, il y a d'ailleurs des écrits dans la presse qui disent... Ils partent les premiers parce que sans doute ils vont venir aussi dans les premiers. Et donc ce qui fait qu'on n'a aucune pression. Donc on se prépare tranquillement. Copa, lui, il ne nous rejoint pas de suite parce qu'il fait la finale de la Coupe d'Europe contre Milan, qui gagne d'ailleurs 3-2, je pense, à Bruxelles. Et donc on commence à faire les matchs. Sans Copa, on gagne 16, 14, 13, enfin, je marque des buts à l'appel. Et la première fois qu'il vient, on fait un match contre une équipe amateur, on gagne 2-1, mais alors, au forceps, quoi. On a eu un voyage en car qui nous a un peu fatigués, mais bon. Et donc, ce premier match avec Copa, c'est pas le Pérou, hein. Et donc, il commence à y avoir des discussions, est-ce qu'ils vont s'entendre, etc. Bon, après arrive le premier match contre le Paraguay. On a la chance de faire un entraînement juste avant eux, ou après eux. Et donc, de voir opérer les joueurs paraguayens qui ont battu l'Uruguay 5-0, quoi. C'était les favoris du groupe, la Yougoslavie seconde, et les outsiders, l'Écosse et nous, quoi. Et en les voyant s'entraîner, on se rend compte qu'ils font pas des choses extraordinaires que nous ne sachions faire, quoi. Et je pense que ça, pour nous, ça a été psychologiquement important qu'on les voit jouer avant.
Parce que ça vous a libéré.
Oui, non, mais parce que vous savez, quand on parle des Brésiliens, on parle de la cheville souple et tout, c'est des conneries. Mais la technique et tout ça, si, c'est sûr que si vous les voyez jongler avant et tout ça, ça impressionne. Mais là, eux, ils ne nous impressionnent pas du tout. Et donc, quand on les rencontre, on sait que c'est pas des surhommes, etc., quoi. Et donc, on joue notre jeu. Il se trouve que la complémentarité entre Copa, moi, Roger Piantoni et tout, est de suite parfaite, quoi.
Alors, vous, en équipe de France, vous portez quel numéro, juste Fontaine?
Là, je porte le numéro 17, mais c'est en Coupe du Monde. Donc, on a numéroté les gens. On commence par les défenseurs, donc... Les gardiens, c'est 1, 2, 3, après ainsi de suite.
Donc Piantoni joue le numéro 20.
Voilà.
Copa joue le numéro 18 et vous 17.
Voilà. Et voilà, et tout ça, ça arrive parce que, bon, on nous a donné que 3 maillots. On joue 6 matchs avec les 3 mêmes maillots. Il faut enlever la broderie des premiers matchs, les laver. C'est de l'amateurisme complet.
Quoi. Alors, vous arrivez en n'ayant pas... Enfin, personne ne vous attend. Personne ne pense que vous avez passé
les choses. Donc, on n'a pas de pression.
Et comment vous entendiez avec les Suédoises? Oh, le côté français, ça...
Oui, non, c'était bien, oui, c'était pas mal, mais... Disons que ça n'a pas influé sur le moral des troupes. Mais ouais, un jour, il y a eu...
Je crois que c'est Jacques Marcel et Célestin Olivier qui étaient arrivés en retard à un entraînement. Parce
je sais pas, non, je me souviens pas de ça. Je me souviens, par contre, que l'équipe d'Argentine avait été visitée par des dames... Et ils avaient perdu le match d'appui, je crois, 6-1, un truc comme ça, ça avait fait un scandale, quoi. Et un jour, ces femmes sont arrivées, là.
Ah, les épouses?
Non.
Ah, les femmes, les femmes, d'accord, les femmes...
Les trublionnes.
Celles qui avaient donné de la joie aux Argentins.
Voilà, sont arrivées à l'hôtel des Français. Alors, pour Nicolas, a piqué une crise. Alors, j'ai jamais vu en colère comme ça. Il leur a dit de tout, il les a renvoyés, enfin bref. Et puis nous, il nous a dit, écoutez, si on est là pour jouer au football, je reste avec vous, mais si vous êtes là pour déconner et courir les filles, je m'en vais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout le monde a dit, bon, tête basse, on a dit, on est là pour essayer de faire le plus de matchs possible, etc. Ça s'est réglé comme ça.
Alors, on se retrouve le 8 juin 1958.
Ouais.
La France d'un côté, le Paraguay de l'autre.
Ouais. Et là, bon, on sait qu'il faut faire un match pour prouver à tout le monde que l'équipe de France n'est pas si mauvaise qu'on l'a dit, quoi. Et surtout, on est pour la première fois au complet avec Copa, parce que Copa n'a pas fait beaucoup de matchs, parce que le Real Madrid... était toujours qualifié en Coupe d'Europe, et donc les matchs amicaux, ils prêtaient pas à Copa, quoi. Il fallait des circonstances exceptionnelles pour qu'ils le laissent. Ce qui fait que moi, j'ai pas joué une seule fois avec Copa. À part le match amical, là, quand il est arrivé, que ça s'est pas tellement bien passé, quoi. Et donc, on joue le Paraguay. Effectivement, ils ont une bonne équipe, surtout devant. Derrière, c'est moins bien. Donc on en profite, et sur une balle en profondeur de Piantoni, je marque le premier but. Je crois qu'ils égalisent. Ils marquent, ils gagnent 2-1, ils mènent 2-1 même. J'égalise sur une passe de Raymond Copa en profondeur, où je prends de vitesse les gars. C'est curieux parce que après le match, il y a un journaliste qui m'a demandé combien je faisais aux 100 mètres. J'ai jamais su combien je faisais aux 100 mètres.
C'est Copa qui disait que vous couriez pas vite, mais si on vous mettait un ballon au pied, personne ne pouvait vous rattraper.
Non, j'ai jamais gagné un sprint à l'entraînement. Mais si on partait du même point, que ce soit Blyard, Copa ou n'importe qui, s'il y avait un ballon en face et qu'on partait en même temps, j'arrivais le premier. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était comme ça. Et surtout, j'allais aussi vite avec que sans ballon. Et donc, ils mènent 3-2 à 20 minutes de la fin. Et là, Piantoni égalise, Wisniewski marque le quatrième but. Après, je marque le cinquième but avec, après 1-2 avec Piantoni. Et je fais marquer le sixième à Coppa. En débordant, et puis en lui envoyant un centre sur le genou. Il marque avec le genou. 6-3, et le septième, c'est encore une combinaison avec Coppa, qui est démarqué sur la droite avec une passe croisée. Je lui donne, et il donne à Vincent, qui a le temps de contrôler, de mettre le ballon facilement dans les filets, quoi. Et évidemment, un score comme ça, 7-3.
Surtout face au Paraguay.
Alors, on est porté au triomphe par les supporters français, quoi. Les trois, là, Raymond, Coppa, Piantoni et moi. Et puis, on commence à parler de notre attaque, quoi, etc. Bon. Après arrive le match contre la Yougoslavie.
Ça a été libérateur pour vous, ce match?
Ah oui, oui.
Oui, ça, là, vous avez senti que tout était
on
possible?
On a senti que là, on avait une bonne équipe, surtout qu'on était capable de marquer des buts à n'importe qui, quoi. Et donc, on joue la Yougoslavie. Malheureusement, il y a Jean-Jacques Marcel qui est blessé. Et au lieu de le remplacer poste pour poste, on veut faire plaisir à Marche. Donc on le met à l'arrière. Et Leron, qui est arrière-gauche, on le met milieu de terrain. Et il se trouve qu'il est... Dans les buts, il est en opposition avec les Yougoslaves. Et deux fois, il glisse. Je sais pas comment ça se fait, parce que c'était un gars qui était vraiment sérieux et méthodique. Alors, je sais pas quel crampon il a mis, mais enfin, il glisse deux fois et le team marque deux fois. Et c'est d'autant plus embêtant que j'ai marqué un premier but d'une reprise de volée du gauche sur un centre en retrait de Piantoni.
Oui, quasiment d'entrée, je crois, à 5
minutes.
Oui,
5 minutes. Après, il nous mène de 1. À 5 minutes de la fin, j'égalise sur une passe de Jonquet, je pense, et un lob sur Béara, et là, avec un match nul, on est tranquille, et on prend un but dans les deux dernières minutes, toujours par Veselinovic, et qui profite d'une glissade encore de Laurent, qui a vraiment été d'une malchance extraordinaire ce jour-là. Mais enfin, on sait que pour le dernier match, on a de quoi... Il se trouve que la Yougoslavie fait match nul avec le Paraguay et l'Écosse, donc si on gagne, on sait qu'on va terminer premier de la poule, quoi.
Mais après cette défaite face à la Yougoslavie, le moral redescend
non,
ou pas du
pas
tout?
Non, pas du tout, non. Non, parce que, en plus, l'arbitrage ne nous a pas été vraiment favorable, parce qu'il y a un pénalty sur moi qui siffle pas, enfin bref. On n'est pas démoralisé, au contraire, et donc on bat l'Écosse... Je fais marquer le premier but à Raymond Coppa. Je marque le second. Après, on prend un but. Je tire sur la barre. Enfin, disons que dans les dernières 10 minutes, on préserve le résultat plutôt que de... Et donc, on est premier de la poule. Donc, on sait qu'on va tomber contre l'Irlande du Nord qui a fait un match de... barrage contre les Tchèques, je pense, un truc comme ça. Et donc, jusqu'à la mi-temps, c'est dur. Et après le premier but, marqué par Wisniewski en fin de première mi-temps, la deuxième mi-temps se déroule tranquillement, on gagne 4-0, je marque deux buts, un de la tête, c'est le premier, un du gauche après une ouverture de Coppa. Et en première mi-temps, je crois que j'ai fait le plus beau saut de ma vie. En hauteur, je suis passé la poitrine et la tête au-dessus de Harry Gray, qui fait 1m85. Le ballon a touché la barre. Et j'ai la photo, elle est magnifique. Je me demande comment j'ai pu sauter si haut. Et puis, bon, on est qualifié et on sait qu'en demi-finale, on va remplacer le Brésil. Et là, bon, Europe numéro 1 nous envoie les femmes, là.
Oui, parce qu'ils avaient fait un concours, je crois. Où...
Oui, mais enfin, ils envoient du courrier avec toutes les lettres, les supporters, tout ça, c'est ce qui est bien, mais les femmes, c'est pas... Je pense que c'était pas une bonne idée.
Oui, surtout qu'il y avait eu un problème en interne, parce qu'il y avait ceux qui étaient mariés et ceux qui étaient en concubinage, mais à l'époque...
Oui, non, mais c'est pas un problème, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si les femmes viennent, il y en a qui, au lieu de penser au mariage, pensent qu'ils vont retrouver la famille, tout ça, c'était... Ils auraient pu les faire venir sans le dire et nous les faire la surprise après, quoi. Et on commence le match, on prend un but d'entrée, alors ça, c'est terrible. Sur un mauvais contrôle de Jonquet, le pauvre.
Mais c'est Vava, c'est Vava qui marque, qui ouvre le score.
Oui. Et puis, on égalise. Après 1-2 et une... 1-2 avec Coppa et une passe juste dans l'axe où j'arrive le premier avant Gilmar, je l'évite, j'ai le dribble et puis dans un angle réduit, j'arrive à redresser la balle, quoi. C'est le premier but que prennent les Brésiliens en 5 matchs. Et là, évidemment, on prend de nouveau, on a le moral, quoi. Et ça dure jusqu'à la 20, je ne sais plus à quel moment il a été blessé Jonquet. La Jonquet est blessée par Vava et on joue à 11 contre 10. Quoi. On arrive à tenir jusqu'à la mi-temps et juste avant la mi-temps, Didi nous met un but, un tir dans la lucarne. Il n'y a rien à dire. Quoi. Évidemment, deuxième mi-temps, étant mené au score et jouant à 10, c'était pratiquement mission impossible. Quoi.
Oui, c'était une partie d'entraînement pour les Brésiliens.
Non, mais en plus, ils font... Il faut circuler la balle, le terrain est gras, donc on marque un deuxième but par Piantoni quand même, on sort les meubles, quoi. Et on en prend 3 de Pelé.
Oui, parce qu'il faut dire que ce jour-là, aligné sur la ligne d'attaque, il y avait Pelé, Vava et Didi.
Non, il y avait Pelé, Vava, et... Didi, Zagallo à gauche, Zito qui était le capitaine de Santos, qui n'était pas mauvais, puis alors derrière une défense... Ils n'avaient pas pris un but, hein, en 4 matchs. Donc, c'est les 2 premiers qui prennent. Ils n'en ont pris que 4. Hein. 2 en finale contre la Suède, qui a perdu le même score que nous, mais eux, ils ont joué en 11. Quoi. Et donc, on n'a pas de regret, parce que, bon, 11 contre 10, face à un règlement qui est inepte, quoi. Parce que c'est idiot qu'on ne puisse pas remplacer un joueur qui est blessé. Surtout avec une fracture de la jambe. Quoi. Enfin bref, on.
Il change en quelle année ce règlement ?
Oh, quelques années plus tard. Mais pas de suite. Je crois qu'en 62, peut-être. Je sais même pas si en 62, c'est pas encore le même. Et donc, on joue la 3e place contre l'Allemagne. Et là, il y a 2 versions qui se détachent, quoi. Soit on fait jouer les remplaçants parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué, et... soit on joue la 3e place, parce que quand même, la 3e place, c'est plus important que d'être 4e. Et Paul Nicolas, lui, est partisan de ça. Il a dit non, on vient pas. Si on veut être 3e, il faut mettre la meilleure équipe. Alors, il y a Jonquet qui est remplacé par Lafont, et Piantoni qui a une crise d'appendicite qui est remplacé par Yvon Douys. C'est un excellent joueur, et Lafont, demi-centre de Nîmes, deuxième du championnat, était un bon joueur aussi. Et donc, on attaque le match contre l'Allemagne. Et là, terrain gras, 2 équipes qui veulent gagner. Et on a la chance de marquer les premiers, quoi. Un débordement de Coppa sur la droite. Et une passe en retrait. Et là, je marque le but le plus facile des 13, quoi. Du plat du pied, le gardien est allé sur Coppa. Ils égalisent. On marque un pénalty à ce moment-là. Wisniewski est fauché. Sur un corner, je marque un but à la Gerd Müller. Après plusieurs ricochets, le ballon est renvoyé, je tire. Schnellinger envoie, je me retourne, je tape, ça tape le dos d'un joueur et ça prend le gardien à contre-pied. Ils reviennent à 3-2 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, bon, il y a des espaces qui se créent parce qu'ils veulent gagner et donc ils se découvrent. Et puis là, on contre, je marque le quatrième. Non, Douis marque le quatrième et moi je marque 5 et 6. En partant du milieu de terrain, là, bon, je les sème en route parce qu'ils sont découverts et puis sur un terrain gras, ils ne peuvent pas me rattraper. Et donc, après le match, il y a mes amis qui sont Leron, attendez que je me souvienne bien, Leron, Douis et Vincent qui me soulèvent, ça dure 10 secondes. Et puis, ils me relaissent. C'était pour fêter les 13 buts, et puis, ça se termine là pour nous.
Il n'y a pas eu de prime pour les 13 buts?
Non, il n'y avait pas souliers d'or, il n'y avait rien à l'époque. Donc, bon. On m'a donné un fusil, mais il a fallu le donner à huis clos, parce que la FIFA voulait pas que ce soit qu'il y ait une cérémonie officielle autre qu'organisée par elle. Et comme elle n'organisait rien, bon, ça a été vite fait. Hein. Et donc, on va à une espèce de foire où il y a une scène, là, on nous fait monter, là, une espèce de foire en Suède, à Göteborg, je m'en souviens. Et là, je ne sais pas ce qui leur prend aux gens, ils nous demandent une chanson. Et on chante les couilles de mon grand-père, et eux, ils croient qu'on chante la Marseillaise, alors on est applaudi à tout rompre. Voilà comment s'est terminée la Coupe du Monde. Et le lendemain, on assiste à la finale Brésil-Suède, quoi. Et là, le Pelé, que je n'ai pas eu le temps de bien étudier, parce que j'avais mes propres sourcils de marquer des buts et de défendre, et je regarde Pelé jouer, bien sûr. Et il fait un truc que j'avais jamais vu encore. Donc il est dos au but, il reçoit un ballon à terre très fort. Et il avait un gars qui le marquait, qui s'appelait Parson, qui avait fait une Coupe du Monde parfaite, quoi. Qui est derrière lui. Donc il va vers le ballon arrive très vite, il pique le ballon. Alors le ballon monte en l'air. Parson qui arrive, il freine, mais il peut pas mettre sa flèche et se retourner parce que c'est fini, quoi. Et avant que le ballon retombe de l'autre pied, donc il a piqué le ballon du pied droit, le ballon monte, il passe au-dessus de Parson, et au moment où il redescend du gauche, il tire, il est à 30 mètres, hein. Le ballon tape la barre, et il revient au milieu du terrain, tellement il a tapé fort. Alors que c'est un gamin de 17 ans et demi, il a des jambes, ils font la moitié de mes mollets, quoi. Je veux dire, il n'a pas encore totalement formé, quoi. Et ça m'est resté là. Et un jour, je l'ai fait à Saint-Étienne, ça, contre Tilinski. Exactement la même chose. Un ballon qui arrive fort, du pied droit, le ballon est passé, et de l'autre, mais moi j'ai marqué dans la lucarne. Et si je vois pas Pelé faire ça, je peux pas le refaire, parce que c'est pas des trucs qu'on enseigne dans les écoles de football.
Merci Juste Fontaine.
Je t'en prie.
C'était À Voix Nue, Juste Fontaine s'entretenait avec David Arthur, à la réalisation Franck Lilin. On se retrouve demain pour le quatrième volet, Paris est magique. Vous pouvez réécouter des émissions pendant une semaine sur le site www.franceculture.com.
C'était le troisième épisode de La Voix Nue de Juste Fontaine au micro de David Arthur, réalisé par Franck Lilin et diffusé pour la première fois le 27 mai 2009. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.